pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a ceux qui voudraient que le Front National fût traité de la même façon que n'importe quel autre parti. Qu'on ne lui consacre ni plus ni moins d'énergie, d'espace, de temps qu'aux autres partis. Une telle conception suppose soit qu'il n'est pas plus dangereux qu'un autre, et pas plus opaque non plus, soit que faire une différence avec les autres partis est contre-productif et en accentuera le danger, la portée. Parmi ceux qui pensent, comme les journalistes ou les chercheurs, qu'on doit le traiter différemment des autres partis, il y en a qui enquêtent obstinément sur ce qu'il y a de trouble du côté du financement du Front National, comme Mediapart. Il y a ceux qui s'intéressent à ses fondements idéologiques, comme le journal Le Monde, qui a publié la semaine dernière une analyse détaillée du discours de Marine Le Pen à Fréjus, intitulée « Pourquoi Marine Le Pen reste profondément d'extrême droite ». Il y a aussi des approches plus sociologiques qui se concentrent sur l'électorat et les raisons économico-sociales de l'adhésion aux idées frontistes. Ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est la manière dont ce parti fonctionne de l'intérieur, ce qui s'y dit, ce qui s'y passe, comment les villes frontistes sont gérées, comment les listes électorales ont été faites, par exemple. En juin dernier, Romain Tardieu, élu à Brignoles, nous avait raconté par le menu les raisons de son départ du front et comment aussi il y avait adhéré. Aujourd'hui, ce sont deux autres repentis, deux défections notoires. Selon le dernier pointage réalisé par la direction du Front National et cité par Le Parisien, il y aurait seulement une petite centaine sur les 600 élus aux dernières municipales qui auraient claqué la porte en l'espace de 2 ans. Mais les détracteurs du parti d'extrême droite estiment, eux, en revanche, que ces défections touchent 15% des élus du FN dans l'Hexagone, soit près de 240 personnes. Aujourd'hui, donc, dans les pieds sur terre, deux repentis, Karim Erzala et Paul-Louis Rabia, étaient conseillers municipaux dans la mairie de secteur FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille. On les écoute jusqu'à 14h au micro de Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer, bonjour. Je vous en prie. C'est un truc de malade, hein, quand on ne connaît pas ici. Hein. C'est pas simple. Hein. On est en plein dans la misère, hein, où vous avez pu voir les cités, quoi. Avec des familles qui vivent... avec de grosses difficultés, des familles monoparentales, etc. Enfin bon, là, on a vraiment tout le cortège de la misère, quoi. Là, on est dans les quartiers nord de Marseille. J'ai rejoint donc le Front National aux alentours de novembre, je crois, octobre-novembre 2015, et je l'ai quitté 8 mois plus tard pour des divergences... politique, des prises de position du sénateur maire qui ne correspondaient pas, en tous les cas, à ce que je porte au fond de moi-même, c'est-à-dire une certaine conception de l'islam. Je m'appelle Karim Erzala, je suis né le 7 août 65, donc j'ai 51 ans. Je suis originaire à la base du nord de la France, puisque je suis né à Maubeuge, où d'ailleurs j'étais petit-fils de mineur et fils d'une personne qui travaillait dans la Syrie, donc mon père. Donc voilà, donc ça a été un parcours qui n'a pas été simple, des fins de mois difficiles. Mais mes parents donc, sont nés donc, en Algérie, en tous les cas pour mon père et ma mère, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi en revanche, je suis né donc, en France, à Maubeuge, dans le nord de la France. Ma famille maternelle donc, était composée de 10 enfants. Et la plupart, je dirais même 100%, étaient et sont toujours communistes. Mes parents ont divorcé en 66, donc peu après ma naissance. Et ensuite, j'ai rejoint mon père qui était sur Pierre Bénite, qui est une banlieue lyonnaise qui se situe à quelques encablures de Vénissieux. Et voilà, donc j'ai rejoint à 17 ans mon père pour des raisons professionnelles. Je travaillais dans l'industrie chimique en 3-8, hein, voilà, samedi, dimanche compris, quoi. Donc, c'est pas facile, mais ça me permet d'avoir un salaire et puis d'avoir une certaine reconnaissance, j'ai envie de dire, professionnelle. Je vivais déjà à ce moment-là des fouilles systématiques, des contrôles au faciès, avec même des fois des propos pour le moins, racistes, même des forces de l'ordre sur lesquelles on avait... c'était très très dur, vraiment. J'ai vécu vraiment comme de l'humiliation et comme du rabaissement de la personne. Et ben là, donc, du fait, je m'engage dans un mouvement associatif, puisque de toute façon, c'était le seul, je dirais, la seule visibilité qu'on pouvait avoir. Rappelez-vous, à cette époque-là, il n'y avait pas d'élus issus de l'immigration maghrébine, quasiment pas, dans les années 80. Donc, à un moment, on parle de l'idée d'une marche pour l'égalité et contre le racisme dont nous étions victimes, puisque nous n'étions pas considérés comme des Français à part entière à ce moment-là. Quand je dis nous, c'est les jeunes issus d'immigration maghrébine, les jeunes Français issus d'immigration maghrébine. Voilà, donc, et on avait envie de revendiquer notre nationalisme, notre envie de faire partie du drapeau tricolore, etc. Mais pour ça, il fallait que la France aime ses enfants de la même manière. On n'avait pas ce sentiment à ce moment-là. Donc, émerge la volonté d'organiser une marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a démarré de Vénissieux, c'est parti de Lyon. Je fais partie de ce qu'on a appelé les marcheurs permanents, ceux qui ont marché tout le long. Moi, bien évidemment, en arrière, j'étais pas... comprenez, à cette époque-là, je n'avais que 18 ans. À la suite de cette marche, tout d'abord, je rentre dans la formation habilité, je forme des animateurs, des directeurs de centres de vacances et de loisirs, donc voilà. Mais très vite, je me rends compte que tout ça, l'insertion par le sport, tout ça, c'est finalement, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, que les jeunes, finalement, arrivés à 17 ans, ils cherchent une formation ou du boulot. Donc, je me dis, on est en train de perdre du temps, on fait que du palliatif. Je m'engage dans le mouvement politique, je rejoins le RPR, je rentre dans la politique. Pourquoi j'ai pas rejoint le PS? Vous savez, moi, j'ai appris à la suite de la marche, aucun des marcheurs organisateurs, fondateurs de cette marche, ont été appelés pour être à l'origine de la création des SOS Racisme. Donc, on a vu Bernard-Henri Lévy, on a vu Julien Drey, on a vu pas mal de monde, mais on n'a vu aucun des marcheurs. Je trouvais que c'était une trahison. Donc, je n'ai plus fait confiance à la gauche à partir de ce moment-là. Je vivais dans ces cités, moi, je n'étais pas en décalage, je ne vivais pas dans des belles villas, non, je vivais dans ces cités, et je pensais que si on avait un représentant, et si je pouvais en être un, je souhaitais vraiment apporter une solution au problème que nous vivions au quotidien. On ne propose absolument rien, et donc comme on ne propose rien, je ne demande rien. Donc je peux penser à ce moment-là que si on ne propose rien, c'est que soit je n'ai pas les capacités, soit je n'ai pas les compétences. Donc je n'insiste pas, et puis je reste un militant bien sage, comme beaucoup d'autres militants. Là, on est déjà dans les années 2000. Là, je me rends compte très vite qu'au sein des instances locales, leur objectif est aussi de m'utiliser à des fins électorales, parce que je m'appelle Karim Erzala, que je parle ma foi pas trop mal, sans trop d'accent. Mais voilà, pour le coup, ils essayaient de m'utiliser justement pour leur ramener un maximum de voix issues d'immigration maghrébine qui étaient nées en France et qui, pour le coup, avaient un droit de vote. Finalement, j'ai toujours été un peu la caution, quelque part. On n'est pas raciste, puisqu'on en a un. Suite à ça, donc, Sarkozy est élu.
Vous, à ce moment-là, donc, vous êtes à Marseille, vous êtes toujours membre de l'UMP ?
Oui, je suis toujours, donc toujours adhérent, toujours militant. Alors, au niveau local, donc, à Marseille, je participe à des réunions, etc. Et moi, je n'ai jamais caché le fait que je sois musulman pratiquant. Quand il y avait des petits banquets républicains, etc., organisés par la Fédération des Bouches-du-Rhône, par exemple, où là, on ne tient pas compte, effectivement, de la diversité de ceux qui vous payent des cotisations et qui viennent y manger et qui ont payé un repas. Je veux dire, vous voyez que c'est un buffet éminemment cochonaille. Là, si ce n'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas comment on le prend. Mais moi, je le prends très mal à ce moment-là. Je me dis, mais une fois de plus, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait être une minorité, certes, mais quelque part on existait, et que pour le coup, sans parler même de menu halal, c'était même pas le cas, c'est simplement de se dire un menu viande sans viande, par exemple, parce que peut-être y avait-il des végétariens parmi nous. Nous sommes en 2014, je suis sur la liste UMP et sur le 7e secteur, le plus gros secteur de la ville de Marseille. Il concerne les quartiers nord, 153 000 habitants, et c'est pas non plus les meilleurs quartiers qu'on puisse trouver. En cours d'un dîner, après une distribution de tracts politiques, on se retrouve à déjeuner ensemble. Et puis là, Richard Muron, tête de liste donc soutenue par le maire Godin, Richard Muron m'interpelle en me disant « Karim, qu'est-ce qu'il faudrait que je prévoie en termes de menu ?» pour les gens qui tiennent les bureaux de vote, qui ne parlent pas les musulmans, donc en l'occurrence. Alors je lui dis, soit tu prévois des menus halal, mais ça je pense que ça ne rentre pas dans tes convictions, soit alors tu prévois des trucs sans viande, parce que forcément la viande n'étant pas halal, en tous les cas pour les pratiquants, comme moi, ça va causer un problème, on va l'acheter. Et là, se lève le directeur de campagne et dit, mais c'est là où j'ai halluciné quand même, il dit, mais ils nous, dans ces termes exacts, ils nous font chier ces musulmans qu'ils aillent prier dans leur pays. Mais moi, à ce moment-là, quand on commence à parler comme ça des musulmans, comprenez, j'ai rien à faire avec ces personnes. Voilà, moi je commence à prendre un peu mes distances. De toute façon, je les ai prises et elles se sont auto-prises naturellement, puisque Richard Miron déjà ne m'associait plus à rien déjà à ce moment-là. Et donc, se met en place des réunions où je ne suis pas convié, se met en place des sorties, des inaugurations, des commémorations où je ne suis pas invité. Et là, j'étais pas bien, quoi. Je veux dire, je gère à ce moment-là une frustration qui est évidente. La frustration de ne pas avoir été reconnu à un moment. J'en avais ras-le-bol d'être l'arabe de service donc à l'UMP. Et là, approche Stéphane Ravier, élu frontiste, hein, Front National du 7e secteur, sous l'étiquette Rassemblement Marseille Bleu Marine. Il apprend que je vais démissionner de l'UMP. Donc, il se rapproche de moi à la fin d'un conseil d'arrondissement en me disant et sache que si tu le veux, tu seras bienvenu chez nous. Et il me dresse un portrait très élogieux me concernant, et peut-être qu'à ce moment-là, j'en ai besoin aussi, hein. Faut pas non plus être dupe. Et là, quand je suis à ce moment-là en manque de reconnaissance, je me laisse facilement draguer. Donc voilà, donc le projet politique, il est clair. Tu serais en charge, si tu es d'accord, de l'action sociale. Hein. Je sais pertinemment que ce sont quand même des islamophobes primaires. Je le sais. Je ne suis pas dupe de ça. Je le sais. Mais je suis tellement en situation de détresse à ce moment-là que je fais abstraction de ces histoires. Enfin, volontairement, vous voyez, je fais un déni de ça. Et je n'entends plus les trucs du rafour crématoire. J'entends plus tout ça. Je me vois enfin acteur politique et du coup, français à part entière. Voilà. Moi, je reviens ensuite à la maison, j'en parle à mon épouse, qui me dit, elle a cru d'abord que c'était que je plaisantais, elle a cru une plaisanterie, hein, sur le coup. Hein. Ma mère, pendant quelques temps, elle a hésité à me rappeler, parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible que tu fasses un truc pareil, t'es en train de te perdre, t'es en train de te vendre, t'es en train de... Voilà, bon. Et moi, comme j'avais besoin de revanche par rapport au fait que l'UMP m'avait tellement, si vous voulez... Déçu, hein. Alors que pendant toutes ces années, j'avais été pratiquement 30 années, vous vous rendez compte, 30 années de militantisme, c'est pas rien. On m'avait un peu tourné le dos. Bon, je vous dis, je deviens vulnérable à ce moment-là, je succombe aux sirènes du Front National, je succombe à leurs propositions, et là, je ne me rends pas compte que je suis en train de pacter avec le diable. Je ne me rends pas compte de ça à ce moment-là. Je me renie complètement, j'oublie d'où je viens, je me dis bon, on va démarrer une nouvelle cette aventure qui finalement a été un parcours chaotique du début à la fin. Pour moi, c'était la bonne décision de dire oui au Front National à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, ça devait être courant septembre-octobre 2015. Notamment, je l'ai rejoint, mais en plus j'adhère. Je n'ai aucune excuse hein, par rapport à tout ça. Je suis cohérent jusqu'au bout, dans la connerie, mais je suis cohérent au moins. Vous voyez, on ne peut pas dire elle a été à moitié. Non, je l'ai rejoint et j'adhère. Après, je suis tellement dans une nouvelle ambiance, dans une nouvelle famille politique, avec des gens qui vous caressent les chines. Et de temps en temps, croyez-moi, quand vous avez mal au dos, ça fait du bien de vous faire caresser les chines. Donc voilà, qui vous dit ce que vous aviez envie d'entendre. Je me sens un peu le VRP du front. Non seulement je le revendique, et en plus de ça, je dirais même que j'essaie de le vendre. Puis voilà, je prends un plaisir à démontrer que d'autres aussi sont pires des fois que le front, voire sont même niveau. Donc à la limite, pourquoi ne pas choisir l'original à la photocopie. Et du coup, je vous l'ai dit, je suis au front, donc je joue la loyauté au front, comme je l'ai joué à l'UMP, où j'ai fait l'arabe de service pendant des années. Ben là, pour le coup, je m'apprête à rejouer le même rôle. C'est une évidence. Il y a des trucs sur lesquels, notamment le droit du sol, droit du sang, où là, j'ai pu, eu un moment, avoir des propos. Je me rappelle de mes propos. Je ne suis pas pour le droit du sol. J'ai dit également, double nationalité, j'étais pas forcément pour. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, etc., je ne dirais plus la même chose. Pourquoi ? Mais là, parce qu'à ce moment-là, je suis au front, je fais du front, je le répète. Quand j'entends... oui, bon, le parti n'est plus comme avant, ça a changé, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas islamophobes. Oui, pour moi, c'est un parti. Et là, nous avons des élus qui reprennent ce parti qui sont racistes et islamophobes. C'est une réalité en flagrant. Enfin, c'est comme ça. Je veux dire, voilà. Le père d'une élue qui, à un moment, écrit « L'islam est une religion de merde » sur Facebook. Hein, donc, j'en ai un autre qui se fait appeler SS, hein, et qui dit « Je souhaite un bon ramadan à tous mes amis musulmans. » On le voit en train de bouffer de la cochonnerie, vous voyez. Bon, que des trucs comme ça. Mais que des choses infectes de ce type. Mais ça, c'est des détails. J'entends des propos comme Yakwe, j'entends des propos comme Bougnoul aussi. C'est des choses qui ont été dites. Alors, je m'appelle Karim Merzala, donc à un moment... Bougnoul, ça m'amène aussi à quelque chose, moi, ça m'amène des choses. Mais c'est toujours pareil, c'est pas pour vous qu'on le dit, vous voyez. C'est pas, hein, on vous dit, mais c'est pas toi, ça. Bon. Donc là, je ne peux plus rester avec ces gens infects. C'était février-mars 2016. Là, je prends mes cartons et je m'en vais. Je ne pouvais plus. La goutte d'eau, c'est l'inaction déjà. L'inaction, je posais des projets, aucun de ces projets n'aboutissait. Donc en fait, cette mairie est là pour arriver jusqu'en 2020, mais sans rien proposer. Tant et si bien qu'ils ont même eu un budget qui n'a pas été dépensé, a été rendu à la mairie centrale. Enfin, c'est gravissime pour un secteur comme le nôtre, qui est sinistré, où les gens sont demandeurs d'actions, de projets. Quand même, la misère est prédominante, hein, avec plus de 40% quand même des gens qui sont en situation de précarité, et qu'aucun projet n'est pu mettre en place en temps et en heure pour permettre à ces populations de vivre mieux. Quels sont les objectifs véritables de cette mairie de secteur, du Front National? Rien du tout. Je me dis, mais finalement, être né en France, enfin, je veux dire, avoir ses études en France, avoir des diplômes en France, payer ses impôts et ses contributions dans ce pays depuis plus de 51 ans, avoir fait un certain nombre de choses dans l'associatif, etc., ça ne vous donne même pas le... Enfin, je me dis, mais finalement, il faut quoi pour être reconnu dans cette République, finalement? Qu'est-ce qu'on attend de nous, finalement? La question que je me pose aujourd'hui et que je me poserai toujours, c'est jusqu'où je suis allé pour pouvoir obtenir finalement quelque chose qui était non pas le Saint Graal, mais qui s'en rapprochait en termes de d'identité personnelle, c'est-à-dire de la reconnaissance et surtout de l'assimilation. On peut pas faire semblant tout le temps. J'ai fait semblant pendant longtemps, mais à un moment, faire semblant pendant plus de 8 mois, croyez-moi, c'est dur. Et croyez-moi, sur ces 8 mois, il y a eu plusieurs phases sur lesquelles, quand je vous parle des 8 mois, je vous parle du Front National. Mais je dirais, allez, sur mes 30 années de vie politique, de militant, etc., ces 30 ans où j'ai vraiment l'impression d'être petit, quoi, d'être tout petit par rapport à des gens qui ne voulaient pas me laisser grandir, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis Paul-Louis Rabia, je suis natif de Hénin-Beaumont du Pas-de-Calais, fils de mineur de fond immigré algérien et d'une mère française cambrésienne. Et j'ai servi la France dans les rangs de la Légion étrangère de 1980 à 1996. Et j'ai donc rejoint le Front National en 2011. Et c'est en 2013 que j'ai rejoint l'équipe municipale de Monsieur Stéphane Ravier et que je suis rentré en campagne. J'ai donc accepté de prendre le mandat d'adjoint délégué aux anciens combattants à la mairie de secteur du 7e secteur de la ville de Marseille, mairie Front National. J'ai donc officiellement démissionné, rendu ma carte du Front National le 2 octobre 2016. Ce qui m'a poussé à prendre ma carte au Front National, c'est ma rencontre avec M. Louis Alliot, qui est le numéro 2 du Front National, à Nîmes. Et pour diverses autres raisons, j'avais été révolté dans le cadre de cette crise économique de 2008 et 2009 et qu'on a pris l'argent des contribuables pour renflouer les caisses des banques. Ça m'a révolté. Alors, dans ma vie professionnelle, j'ai été chauffeur routier international et aujourd'hui à Vitrolles, je travaille comme chauffeur routier mais en régional. Et mon salaire moyen qui se situe entre 2000 et 2400 euros net pour des horaires de travail qui varient généralement entre 190 et 220 heures mensuelles. Voilà. Et je suis un ouvrier. cette classe à laquelle j'appartiens depuis l'âge de 16 ans. Classe dont on ne parle plus jamais aujourd'hui, à savoir la classe ouvrière. Pour moi, nous sommes une classe qui sommes un peu aujourd'hui les oubliés de la République. On ne parle plus de la classe ouvrière.
Monsieur Rabia, pourquoi vous n'êtes pas allé du côté de Mélenchon ?
Par déontologie et ayant été képi blanc dans les rangs de la Légion étrangère pendant près de 17 ans, suite à ce qui s'est passé avec le Parti communiste français à l'issue de la bataille de Dien Bien Phu, notamment au camp 113, je ne peux plus supporter de voir des communistes en face de moi.
Donc, vous adhérez au Front National en 2011, vous êtes convaincu de leurs idées, j'ai l'impression, hein ?
Oui, j'étais convaincu de leurs idées, à savoir, la première chose, c'est l'honnêteté des personnalités politiques de tout rang, que ce soit député, sénateur, qu'il soit maire ou autre. Et en arrivant ici, je me suis aperçu qu'ils faisaient exactement le contraire de leur programme politique. Je voyais bien que pas mal d'élus, pas mal d'adjoints commençaient à faire cavalier seul et n'étaient pas collectifs. En octobre 2015, un collègue adjoint qui a servi aussi dans le même cadre que moi, mais dans les unités parachutistes, qui est aussi adjoint, alors je lui ai proposé de lui remettre officiellement la croix du combattant. Étant moi-même ancien combattant depuis 18 ans et étant investi d'une mission de service public, j'avais toute autorité légale pour lui remettre cette croix à une cérémonie. Il a refusé en me disant « Je ne veux pas que ce soit toi qui me la remette. » Peut-être mes origines maghrébines, il ne voulait pas que ce soit un arabe qui lui remette la croix du combattant. Étant lui-même Front National, peut-être l'a-t-il mal pris. Ça veut dire qu'on m'a renvoyé clairement à mes origines, quoi. Parce que finalement, même en étant adhérent au Front National, même en étant ancien combattant, on vous dira toujours que vous êtes français, oui, mais d'origine. J'ai vécu le racisme à l'intérieur du Front National. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas voulu me faire entièrement confiance, justement peut-être par mes origines maghrébines. Mais en ce qui concerne le droit du sol, on ne peut pas interdire une personne de devenir française si, à partir du moment où elle est née sur le sol français. Voilà. Finalement, on vous renvoie toujours à vos origines. Moi, j'ai ressenti ça comme une blessure profonde et pire encore, comme une insulte. J'ai commencé à prendre du recul dès qu'on m'a fait des remarques que j'étais là pour l'alimentaire, autrement dit pour un plat de lentilles.
Parce que vous gagnez combien avec votre fonction à la mairie ?
Je gagnais avec 795 €. Mais bon, moi je suis un homme droit dans mes bottes. Je suis retraité militaire. À ce titre, je touche une pension tous les mois qui est équivalent au SMIC. Et puis mon emploi de chauffeur routier me permet de bien gagner ma vie ici dans les Bouches-du-Rhône. Et je rappelle que j'ai deux biens immobiliers que je loue, que j'ai des revenus locatifs. Je paye quand même presque 2 800 € d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, je n'attends rien du Front National au niveau alimentaire. Je ne suis pas venu au Front National pour avoir un bout de pain. Je n'attends rien du Front National, ni de personne. Depuis l'âge de 16 ans, où j'ai commencé ma vie professionnelle comme peintre en bâtiment, j'ai appris à me lever à 5 heures du matin. Pour moi, la plus grave blessure, c'est quand M. Ravier, par texto, m'a dit que j'étais là pour l'alimentaire. Une humiliation. J'ai tout d'abord, le 7 juillet, pris la décision de démissionner. J'ai envoyé mon pli recommandé à la préfecture, à monsieur le préfet. Et ensuite, c'est en ayant reçu une lettre recommandée avec accusé de réception fin septembre, me convoquant au siège du Front National à Nanterre pour être sanctionné, pour avoir tenu des commentaires dans la presse sur monsieur Ravier. Alors, ce que j'ai sous les yeux, c'est la lettre recommandée à accusé de réception me convoquant au siège du Front National à Nanterre le lundi 10 octobre 2016 à 15h. Vous êtes convoqué pour les faits suivants, avoir fait publiquement des déclarations contre le sénateur-maire Stéphane Ravier. Stéphane Ravier a créé un système autocratique avec une garde rapprochée. Il a le culte de la personnalité et est comme un gamin qui casse ses mandats comme des jouets pour des plus neufs. C'est ce que j'ai déclaré dans la presse. Et aussi pour avoir quitté le groupe Front National au conseil municipal du 7e secteur de la ville de Marseille. Je dois me déplacer à Paris, au siège du Front National, pour me faire engueuler ou sanctionner, ou me faire tirer l'oreille. Je n'ai le droit que de me faire représenter que par un autre adhérent du Front National ayant plus de 2 ans d'ancienneté à jour de ses cotisations. Le Front National m'interdit le droit de me faire représenter par un avocat. Alors, à la suite de ça, c'est là que j'ai décidé de tourner la page définitivement avec le Front National et de leur rendre ma carte. Disons qu'ils ont une façon ubuesque de donner des leçons quant à la démocratie.
Est-ce que vous allez voter, vous pensez, Front National aux prochaines élections ?
Ah non, je ne voterai certainement pas pour le Front National et je prie Dieu que ce soit Ségolène Royal qui se présente l'année prochaine à la présidentielle.
Oui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel sein se vouer. Politiquement, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de candidats qui puissent être à la hauteur de la prochaine présidentielle. Pourquoi la France ne serait-elle pas gérée par une femme, puisqu'on n'a eu que des hommes comme président de la République, et que, à mon sens, à part un qui a été plus ou moins à la hauteur, je veux parler du général feu M. Charles de Gaulle, je ne vois pas qui pourrait aujourd'hui gérer le pays mieux qu'une femme.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre de Repenti, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Anne Kobilac avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. À noter, s'il vous plaît, la diffusion exceptionnelle demain dans Les Pieds sur Terre à 13h30 de notre nouvelle série Mes années boom, une enquête algérienne, 7 épisodes que vous pourrez écouter chaque jeudi. Ou bien, tenez-vous bien, podcaster dès demain dans leur totalité. Dès demain, vous pourrez donc entendre les 7 épisodes de cette enquête d'Adila Benedjaizou avec Marie Placet. Demain à 13h30, dans Les Pieds sur Terre et sur le web, le premier podcast sera né. Un extrait tout de suite en avant-première.
Ça faisait déjà un bon mois où tu arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort. Maman, papa est mort. »
C'était l'Aïd el-Kébir. C'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils. Aussi, il n'avait pas de problème avec personne.
Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Même pas, même celle-là.
Moi, en tant que Benedjaï, je peux te dire que ça a fait un gros boom dans la famille.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du peuple.
Fichez-moi, personne ne sait. Personne. Personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez?
C'est tellement loin, plus de 40 ans. Hein.
Et Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin, voilà.